Tov.
Elle a fait exprès.
Bonsoir à tous, Be'ezrat Hashem, Tu Bishvat Sameach pour demain soir. Et aujourd'hui, bien entendu, nous avons une mitzvah de parler toujours des fêtes dans lesquelles nous sommes, ou à proximité desquelles nous sommes, tout simplement parce que nous avons une mitzvah de coller notre vie à la situation dans laquelle nous sommes. Alors les sages nous ont donné un exemple. Dès qu'il y a une fête qui s'approche, parle de la fête. Et si on extrapole, ça veut dire toujours sache parler des sujets de ton époque. C'est ça que ça veut dire. Ne rate pas le sujet de ton époque. De la même manière que tu ne peux pas parler aujourd'hui de Hanouka, puisque c'est Tu Bishvat, ne parle pas pendant une période de Géoula, de quelque chose qui est loin. Sache parler au peuple et donne-lui l'information qui correspond à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a dans Ishaïa, au chapitre 45, un verset, je vous le lis en hébreu et je vous le traduis. « Leman yed'u mimizrach shemesh u mima'arava » pour que tout le monde sache, depuis l'endroit où le soleil se lève, « u mima'arava » jusqu'à l'endroit où le soleil se couche, donc l'est et l'ouest, qui efes bil adai, qu'il n'y a rien d'autre que moi. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle, par la bouche du prophète. Ani Hashem, je suis le tétragramme, ve'en od, et il n'y a rien d'autre, pas d'autre Dieu. Rien d'autre n'existe. C'est très difficile. Yotzer or ou bore chosher. Celui qui a façonné la lumière et qui a créé le noir, Ose Shalom ou Borera, celui qui fait la paix et qui a la capacité de créer le mal. Ani Hashem Ose Kol Ele, c'est moi, Dieu, qui fait tout ça. Ça veut dire quoi? Ce que nous définissons comme mal, en réalité, même là-bas se trouve Dieu, c'est lui-même qui le fait. Il n'y a personne que Dieu. Pour ne pas qu'on tombe dans l'erreur de Chas v'Shalom de croire qu'il y a deux divinités, deux forces. Il y a le Dieu qui fait le bien, et il y a un autre Dieu qui fait le mal, et il y a un combat de Dieu. Et si Dieu veut, le bon gagne le mauvais. Mais de temps en temps, peut-être que le mauvais peut gagner le bon. Rav Saadia Gaon, Alav v'Shalom, nous explique que ce verset-là, c'est l'inverse, c'est ce qui vient donner une gifle à tous ceux qui croient en deux divinités, en deux forces. C'est-à-dire ceux qui voient une contradiction entre le soleil et la nuit, entre le jour et la nuit. Autrement dit, il y a le soleil, le jour, l'endroit où on voit, le lieu où on voit, les situations dans la vie dans lesquelles on voit clair. Et il y a les situations où on ne voit pas trop clair. Et il y a ici un combat entre les deux degrés, pas du tout. Et ça, en réalité, c'est la base de la Avodah Zarah. Il n'y a pas d'autre Dieu, il y a un seul Dieu et il est dans tous les événements qui arrivent. Et donc, moralité, nous avons ici un degré par lequel nous allons rentrer dans le mois de Shvat et on va arriver à Tu Bishvat et on va essayer de développer quelques idées de ce mois. Vous savez que chaque mois de l'année est soumis à une puissance, comme un filtre, par laquelle la lumière divine va traverser ce filtre et va arriver sur Terre. Comment on appelle ce filtre? Le Mazal. Chaque mois a un Mazal. Ce que nous appelons, je ne sais pas comment en français, un astre, mais ce n'est pas un astre. Okay? L'astre, c'est un kochav. Là, c'est un mazal, du mot nozel, celui qui coule de source, donc de Dieu, pour arriver sur Terre, il y a certains filtres. Et chaque mois va présenter un filtre, et donc la lumière va arriver colorée par le filtre par lequel elle est passée. Quel est le filtre du mois de Shvat? le dli, qu'on appelle en français le verso. Traduction en hébreu, le seau, et pas le verso. Okay? C'est-à-dire le seau en lui-même. Celui qui est capable, en fait, de rentrer au fin fond de la terre et de puiser de l'eau qui n'est pas visible. Donc c'est celui qui est capable de sortir du fin fond de la terre, de la matière, et de monter, okay, au grand jour. Gardez cette information, elle est importante, parce que les choses de ce monde, quel honneur, les choses de ce monde apparaissent de cette manière-là. Autrement dit, dès que la lumière divine veut descendre sur terre, et elle descend sur terre, elle passe toujours par un filtre qui va lui changer, lui transformer la réception. Chez le donneur, rien ne change. Ani Hashem lo shaniti. Il y a un verset qui dit, moi, l'Éternel, je ne change pas. Je ne suis pas soumis au changement. Vous, les receveurs, vous, vous êtes soumis au changement. Normal. Nous sommes dans un monde de dualité, de pluralité, puisque la première lettre de la Torah, c'est le V. C'est déjà le 2. Donc nous sommes soumis au 2, alors que lui est toujours dans l'unité parfaite. Et le verset dans Tehilim nous dit « Achat diber Elohim, shtaim zu shamati ». Lorsque Dieu parle en code 1, nous nous entendons en code 2. Automatiquement, nous sommes dans un monde de pluralité. Si l'astre, si le mazal, l'écoulement de ce mois-ci, c'est le verso, donc le sceau, ça vient nous donner une information. Et il faut qu'on garde cette information pour l'instant de côté. On va essayer de voir comment on peut faire le lien de toutes les informations qu'on reçoit dès le début. Une autre information, nous dit le Midrash dans la Psikta Zutra, que le mois de Shvat, c'est le mois dans lequel on a commencé les plaies sur l'Égypte. C'est-à-dire que toutes les plaies qui sont venues en Égypte ont commencé pour la première fois, donc la plaie du sang, première plaie, a commencé dans le mois de Shvat. Autre information, la troisième, pendant le mois de Shvat, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Pendant le premier jour du mois de Shvat, c'est-à-dire le Rosh Chodesh, Moshe Rabbeinu a commencé à dire le dernier livre de la Torah, donc le livre de Dvarim, que nous appelons Mishneh Torah, le miroir de la Torah. Et quelle est sa qualité à ce Mishneh Torah? C'est un livre qui va donner pas seulement une information divine, la Torah, mais comment vivre la Torah sur la terre d'Israël. Puisque le livre de Dvarim, son nom l'indique en hébreu, il faut entendre en hébreu, il faut traduire directement de l'hébreu. Dvarim ne veut pas dire ni Deutéronome, ni je ne sais pas ces noms-là. Okay? Dvarim veut dire les choses. Autrement dit, lorsque tu te manifestes et que tu concrétises tout ce qui était jusque-là spirituel. La Torah, c'est bien beau, elle est venue du ciel, mais elle va se réaliser où ? Obligatoirement sur la terre, dans le lieu qui lui est naturel. Le livre de Dvarim. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu va dire ce livre? Le premier jour où il commence, le premier jour du mois de Shvat. Incroyable. Mishneh Torah, Torah du peuple sur la terre. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de sa mort. Pendant 37 jours, Moshe Rabbeinu va donner le plus long cours de sa vie. 37 jours de cours. Et qu'est-ce que c'est que ce cours qu'il va donner? Tout le livre de Dvarim, comment comprendre toute la Torah qui nous a été donnée jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce livre de Dvarim, c'est qu'il commence par le mot « Elle ». Et les sages nous disent quelque chose d'incroyable. Dès qu'il y a marqué « Elle », voici, ça vient annuler tout ce qu'il y avait avant. Si on voulait faire référence à tout ce qu'il y avait avant, on aurait dû mettre V-E-L-E, avec un Vav. Le Vav en hébreu est une lettre de lien, de rattachement, de liaison. Or ici, il n'y a pas de liaison, et les sages concluent, le dernier livre de la Torah, c'est une nouvelle réalité. Je vous traduis avec mes mots à moi. Le peuple sur sa terre, c'est une autre race. Il y a une transformation lorsque le peuple arrive sur sa terre. C'est autre chose. Cinquième information. Pendant le mois de Shvat, nous lisons dans la Torah toutes les parachotes qui sont relatives à la sortie d'Égypte. Donc en réalité, libération. Non seulement ça, on va lire la paracha du don de la Torah, donc le Yitro, la semaine prochaine, la traversée de la mer, donc la libération, la capacité à se libérer. Et les sages voient dans toute cette ce rassemblement de messages un grand secret. Il y a un grand secret qui rassemble toutes ces informations que je viens de vous donner, et il y en a encore beaucoup d'autres, mais je ne peux pas allonger le cours, que toutes ces informations se passent dans le mois de Shvat, dans le mois dans lequel nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que viennent nous donner ces informations? Et c'est en réalité sur ce degré que nous allons essayer de construire ce cours. Si le don de la Torah nous a été donné, en tout cas on le lit dans le mois de Shvat, alors que naturellement on aurait dû le lire à Shavuot, pourquoi on le lit maintenant? C'est que les sages nous donnent une information. La Torah n'est pas seulement celle que tu vois, elle est bien avant que tu vois. Car je vais vous poser une question. Demain soir, c'est Tu Bishvat. Tu Bishvat, nous avons l'habitude de dire que c'est Rosh Hashanah la Ilan. Donc des fruits, de l'arbre et ainsi de suite. Je vous pose une question. Si vous sortez demain et que vous regardez les arbres, vous voyez des fruits?
Non.
Il n'y a rien du tout. Les arbres sont apparemment aussi morts que la semaine dernière et que la deux semaines d'avant. Il n'y a rien qui a changé. Pourquoi je fête une fête concernant un arbre qui normalement doit donner ses fruits et je vois l'arbre mort? Vous savez pourquoi nous fêtons Tu Bishvat et que Tu Bishvat a la forme de la fête telle qu'on la connaît aujourd'hui? Personne n'a jamais fêté Tu Bishvat. Tu Bishvat tel qu'on le connaît aujourd'hui a été amené il y a 400 ans par les kabbalistes. Avant 400 ans, il n'y avait pas de Tu Bishvat. Tu Bishvat était une date, un passage dans l'année entre l'état d'un fruit avec le maaser, la dîme que je devais donner concernant ce fruit avant ou après cette date. C'est tout. C'est devenu Tu Bishvat que l'on connaît parce que les kabbalistes viennent nous donner quelque chose d'important. Kabbaliste, en hébreu, veut dire capacité à recevoir, les kabbels. Moralité, les kabbalistes ne sont pas des gens qui planent. Bien au contraire, ce sont ceux qui nous apprennent à recevoir, à être des réceptacles. Et ça, c'est la chose la plus dure dans la vie. Beaucoup de gens savent donner, mais ne savent pas recevoir. C'est plus facile de savoir donner que de se recevoir. Ne croyez pas que recevoir, c'est facile. Et là, les kabbalistes nous apprennent à recevoir. Comment ils nous apprennent à recevoir? Une information d'abord importante. Pour recevoir quelque chose, il faut être disponible. Pas disponible au niveau du temps. Disponible dans sa tête. Si tu n'es pas disponible, tu ne pourras jamais recevoir aucune information, rien du tout. Car tu viens déjà, nous disent les sages, comme une bosse et pas comme un creux. Si tu viens comme une bosse, je traduis, avec la sensation que je sais, donc tout me glisse dessus, je ne pourrai jamais rien recevoir. Le kabbaliste vient te dire, cher monsieur, chère madame, si tu veux savoir recevoir quelque chose dans ta vie, présente-toi en creux. À chaque fois que tu rentres étudier quelque chose, sois humble. Tu ne sais rien. Efface tout ce que tu sais quand tu rentres au cours. Reçois. Chez toi, à la maison, tu feras 1 plus 1 égale 2, 3, 4, 5, 6. Après, tu feras tes comptes. Mais lorsque tu es dans un cours, reçois. Sinon, tu es complètement bloqué, tu ne pourras jamais recevoir. J'ai traduit ce mot par un langage moderne, sois disponible. Si tu n'es pas disponible, tu ne pourras jamais recevoir. Nous avons parlé souvent de la sortie d'Égypte. Encore une information dans laquelle nous avons dit que la sortie d'Égypte, on l'a lu cette semaine, la paracha de Béchala, pourquoi nous la lisons le mois de Cheval? Ces fameux kabbalistes nous disent, tu sais quand est-ce que tu dois fêter la fête? Pas seulement quand tu vois les choses. Je reviens à l'arbre. C'est enregistré. Hein? Je vais dire que c'est docteur. Non, ça va. Les kabbalistes viennent nous donner une information très importante. Tu sais quand est-ce que les choses se font, pas seulement quand tu les vois. Il faut que tu sois capable de déceler la chose avant qu'elle monte à la surface. Tu dois être capable de reconnaître la qualité de quelqu'un avant qu'il ne soit grand. Tu dois être capable de découvrir un nouveau talent avant qu'il soit connu. Tu dois être capable de voir un fruit avant qu'il n'apparaisse. Et tu dois être capable de voir la délivrance du peuple d'Israël, même dans la période qui précède et qui paraît complètement noire. Difficile, compliqué, bloqué. Ça, c'est la force du kabbaliste. Moralité, même si demain on sort et on ne voit rien sur les arbres, l'information est que la sève est déjà en train de circuler dans les racines, dans le tronc et sur les feuilles. Et dans quelques jours, vous allez déjà voir les fleurs. Au moins du premier arbre, la Shkedia. Celle qui va fleurir en premier. La sortie d'Égypte, c'est la même information. Qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, c'est tout simplement transformer l'idée Égypte qui ferme mon identité et me libérer de cette prison. En hébreu, Mitzraïm, l'Égypte, n'est pas un pays, mais une prison, Metzar. Et il reste le mot Mi, la prison de Mi, la prison de qui? Autrement dit, qui es-tu? Tu es en prison. On t'a emprisonné, on a emprisonné ton identité, tu ne sais même plus qui tu es. Donc il va falloir que je libère. Qu'est-ce que c'est emprisonner l'identité de l'homme? C'est que pour savoir recevoir, il ne suffit pas d'ouvrir la main. Nous disent les sages, et c'est là la deuxième information, qui est l'homme qui sait recevoir? Celui qui apprend à recevoir pour donner. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes assis ici, seuls ceux qui écoutent maintenant le cours pour le retransmettre, vont le comprendre. Ceux qui écoutent le cours pour se faire un petit plaisir, parce qu'il y a un cours à Jérusalem, ne vont pas être capables de recevoir tout le cours. Autrement dit, votre capacité à être disponible est différente lorsque vous apprenez pour enseigner que lorsque vous apprenez tout simplement pour apprendre. Quand je suis enseignant et que je vais étudier chez mon rav, lorsqu'il me donne un cours, je suis en train de l'écrire comme si j'étais en train de le transmettre déjà. Et donc je comprends le cours infiniment beaucoup plus grand. C'est la même chose au niveau de la vie. Pour savoir recevoir, on a parlé tout à l'heure de ce secret de savoir recevoir qui est très difficile. La condition pour que tu reçoives quelque chose dans la vie, c'est que tu transmettes. Or l'Égypte, c'est exactement l'inverse. L'Égypte, c'est la capacité à recevoir pour soi-même. Sortir d'Égypte, nous disent les kabbalistes, c'est sortir de ce degré, de cette prison, et devenir quelqu'un qui reçoit pour partager. C'est exactement ce qui se passe avec l'arbre. Pendant toute la période de l'hiver, l'arbre recevait pour lui-même. À partir d'aujourd'hui, il se transforme et il commence à recevoir pour partager. La preuve, il va donner des fruits. Tu ne vois pas les fruits ? Peu importe, le processus a déjà commencé, il est souterrain. sache le reconnaître, et si tu ne sais pas, les sages de la Kabbalah viennent te dire qu'il se passe quelque chose, tu vas faire une fête apparemment ésotérique, il n'y a rien, et pourtant, il est en train de se passer quelque chose. La preuve, c'est que dans 2-3 semaines, tu vas avoir des fruits. Ils ne sont pas venus en un jour, ils sont venus parce qu'il y avait un processus. La même chose pour la délivrance d'Israël. Ceux qui attendent le Mashiach comme une date ne comprennent pas qu'en réalité le Mashiach est un processus. Et au lieu d'attendre et de voir le processus sous leurs yeux, se développer sous leurs yeux, ils attendent une date. Tant que le Mashiach n'est pas là, pour moi, il n'y a pas de Géoula. Faux. Exemple, Tu Bishvat. Il n'y a rien, et pourtant, il y a déjà une délivrance de l'arbre. Il est en train déjà de se transformer. Tu n'as rien vu. C'est dommage. Arrêtez de s'occuper seulement de soi-même. Arrêtez tout le temps d'écouter soi-même seulement. C'est un culte étranger à celui de Dieu. Quelqu'un qui s'écoute sans arrêt et qui fait sans arrêt attention qu'à lui-même, en réalité, il ne sert plus Dieu, il se sert lui-même. Commence à partager. Commence à donner. Ressemble à l'arbre. Ki ha'adam etz hasadeh, car l'homme ressemble, a été comparé dans la Torah aux arbres. L'homme est comme un arbre. Alors que tous les éléments, par la force de l'attraction terrestre, reçoivent, qu'est-ce que ça veut dire Eretz en hébreu, la terre, désir de recevoir, rotse. Donc la terre, c'est pour ça, tu jettes quelque chose, la terre l'avale. Pourquoi rotse? Il y a un élément extraordinaire qui fait l'inverse. L'arbre va casser la terre, au lieu de rentrer, il va sortir vers le ciel. Et avec lui, l'eau. Les deux éléments du mois de Shvat. L'eau va percer la terre du bas vers le haut et va jaillir. Donc nous avons ici deux éléments qui sont un grand secret, qui défient l'attraction terrestre apparemment. Ils vont à l'inverse de ce que la terre veut. Mais il y a un plus grand secret encore. C'est que de quitter la terre, ce n'est pas une grande sagesse. L'arbre nous enseigne quelque chose de plus fort encore. Tu dois monter vers le ciel, mais tu dois toujours garder les pieds sur terre. Si ton judaïsme est un judaïsme d'esprit, tu es paumé au fin fond des cieux. Le verset dit, « Imien idachacha bikce hashamayim » Si tu as été perdu dans le ciel, « Misha mikachecha Hashem Elohecha ve'eviacha el haaretz » De là-bas, Kadosh Baruch Hu va te prendre et te ramener sur terre. Et si vous regardez la traduction dans vos livres en français, qui traduisent, donc qui trahissent, on vous dira si tu es paumé au fin fond de la terre. C'est faux. Bikce Hashamayim, c'est au fin fond du ciel. Pourquoi la Torah s'exprime de cette manière-là? Parce que tu peux absolument être en dehors de ta terre et croire que tu es religieux. Tu es devenu un esprit. Tu es plongé dans ta Gemara. Il y a une histoire extraordinaire. Un jour à Tu Bishvat, en Pologne, il y avait Rabbi Mendel de Kotzk qui commençait à donner des cours sur Tu Bishvat. Et il s'arrête et il dit à son élève, Rabbi Yitzhak Meir, parle. Et Rabbi Yitzhak Meir, qui était un grand sage, commence à donner une explication sur Tu Bishvat extraordinaire. Et le rabbi de Kotzk se met à pleurer. Et il pleure. Et son élève le regarde et dit, je dis quelque chose de faux, Kvod Harav. Il dit, non, mais tout ce que tu es en train de philosopher ici, si on était en Eretz Israël, il suffirait de manger juste un fruit. Et on vivrait la chose au lieu de l'étudier. Il y a des gens qui, lorsqu'ils se sont mis à étudier la Torah, ils ont quitté la vie. J'explique. L'étude de la Torah, ce n'est pas l'étude de la sagesse. C'est d'ailleurs la faute du premier homme. Le premier homme a voulu goûter le fruit de la connaissance. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Parce qu'il fallait qu'il goûte avant le fruit de l'arbre de la vie. Vous comprenez le secret? On ne te demande pas d'être un grand sage. On te demande d'abord de vivre. Si tu es devenu connaissant avant de vivre, tu n'as rien. Tu dois d'abord vivre et de ta vie, tu dois commencer à étudier la sagesse divine. Moralité, il y a des gens qui étudient et il y a des gens qui vivent la Torah. La terre d'Israël, c'est sa grande qualité. C'est une terre qui nous fait vivre la chose et pas seulement l'étudier. Je peux regarder à travers ma fenêtre toute l'histoire que je suis en train de lire dans la Haftara du Shabbat parce que Yirmiyahu a acheté un terrain à Anatot. Et moi, quand je suis assis dans ma synagogue, je regarde par la fenêtre et je vois Anatot à 10 heures. C'est-à-dire le texte a une géographie extraordinaire. Je ne suis pas dans une Gemara. Je ne suis pas dans un texte complètement abstrait. Je ne suis pas dans le virtuel. Je suis dans le réel. Ça, c'est la différence entre l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Il faut d'abord vivre. La sortie d'Égypte nous donne la capacité à rentrer dans la vie. Et ça, ça commence à tout Bishvat. En tout cas, selon Beit Hillel. Beit Shammai, il est encore plus. Il dit que c'est depuis le premier jour du mois de Shvat. Autrement dit, Beit Hillel, il est encore gentil. Même si tout Bishvat, on ne voit rien dans les arbres, dit Beit Shammai, moi, j'aurais fixé la date de tout Bishvat au premier de Shvat. C'est-à-dire, à la source de la source, dans la graine, je suis capable de voir déjà la fête. C'est ça, Shammai. Beit Shammai, ça vient du terme Shammai. Il est dans une vision divine des choses. Donc, il voit les choses à la source. Beit Hillel, c'est déjà celui qui respecte un petit peu, bientôt sur terre. Donc, dès qu'on voit les choses, on peut les toucher un petit peu, ça respecte l'homme. Sachez que nous approchons de la fin des temps. Et à la fin des temps, nous disent les sages, la halakha devient comme Beit Shammai et pas comme Beit Hillel. Pourquoi? Tout simplement parce que de plus en plus, nous allons voir la réalité de la vie avec les yeux du divin et plus avec les yeux de l'humain. Autrement dit, la sagesse divine va tellement remplir la terre. Avira d'Eretz Israël markim, l'air d'Eretz Israël rend sage. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Sagesse, ce n'est pas une pensée. On le dit tous les jours dans le texte. Kulam bechokhma asita. La sagesse divine, quelle est sa qualité première? L'action. C'est une sagesse qui agit. C'est pas une sagesse. Regardez la nouveauté de la Torah. Toute sagesse qui ne passe pas à l'action n'est pas une sagesse. Si vous décomposez le mot chokhma, sagesse en hébreu c'est koachma. C'est la force de l'homme, en valeur numérique ma. La force de la question, la force de l'action. Lorsque tu agis, tu me prouves que tu es un sage. Lorsque tu penses, tu ne m'as rien fait encore. Contrairement à celui qui a dit « je pense, donc je suis ». Nous disons d'abord « je suis » et c'est parce que je suis que je peux penser.
Excusez-moi. Si on libère le mi, on libère en même temps le quoi ?
Exactement. Dès qu'on libère l'identité de l'homme, on libère sa capacité à découvrir. Or, ma est en valeur numérique 45, c'est aussi la même valeur numérique que Géoula, la délivrance. Donc tu te délivres en réalité. Chochma peut s'écrire Koach Géoula. C'est la même chose, la force de la délivrance. Je vous rappelle que le premier terme de la sortie d'Égypte, c'est sortir. Vehotseti. Pourquoi? Parce que la vraie délivrance est d'abord de savoir sortir à temps. De savoir se retirer à temps. De savoir sortir de soi à temps. Tant que tu es à l'intérieur, recroquevillé sur toi-même, tu es encore dans un degré qui s'appelle Égypte. Dès que tu sors, par exemple, tu t'exprimes, ex, par la parole, la Haggadah de Pessah. Haggadah veut dire celle qui parle. Pessah, c'est la traduction littérale en hébreu de Pé, la bouche, Sah qui raconte. Moralité, tout le degré de Pessah est codé où ? À Tu Bishvat. Or, Tu Bishvat, c'est le 15 du mois de Shvat. On ne voit rien. Alors Dieu nous dit, c'est pas grave. Dans un mois pile, jour pour jour, il va y avoir le 15 du mois de Hadar. Et là, tu vas commencer à voir tous les fruits que tu ne pouvais même pas voir sur les arbres. Tu vas commencer même à boire leur jus. Tu vas te saouler à pourrir. Un mois pile, Tu Bishvat, Tu Be'Hadar. Sauf dans une année Me'uberet. Et si tu n'as pas encore compris, un mois plus tard, tu vas être au 15 du mois de Nissan, tu vas avoir Pessah. Et là, tu vas déjà commencer à voir véritablement la sortie d'Égypte, concrètement. Moralité, Tu Bishvat se voit un tout petit peu à Tu Be'Hadar et se voit encore mieux à Tu Be'Nissan. Tout. 15. Et ces 15 ont un grand secret, mais ce n'est pas le moment. Le temps venu, Be'ezrat Hashem, on étudiera quelle est la qualité des autres mois. Le verso, c'est la qualité, donc, de puiser. Puiser quoi? Tu ne peux pas puiser ce qui est à la surface, parce que tout le degré de ce dli, de ce seau, c'est d'aller au fin fond de la terre, de creuser un trou dans la matière, et d'aller chercher l'eau qui se cache dans la matière. Pourquoi croyez-vous que tous nos patriarches s'occupaient sans arrêt à creuser des puits? Et les Palestiniens de l'époque s'occupaient à reboucher les puits. Et la Torah n'a rien d'autre à nous raconter que ceux-là bouchaient et les autres débouchaient. En réalité, nos patriarches sont des déboucheurs. Ce sont ceux qui sont capables d'enlever la matière pour découvrir l'eau. Et nos ennemis, comme ceux d'avant et comme ceux d'aujourd'hui, ne savent que couvrir, tuer. Ne respectant pas la vie. Donc nous sommes obligés d'aller au fin fond de la matière pour découvrir, pour déceler l'eau. L'eau, c'est tous les secrets. L'eau, c'est la Torah. L'eau, c'est le plus grand conducteur. L'eau, c'est la délivrance, car le délivreur d'Israël est sorti de l'eau. « Ki minamaim meshiti, où je le tirai des eaux. » L'eau en hébreu s'écrit de droite à gauche et de gauche à droite. « Maim, maim. » L'eau, c'est un grand secret. Depuis la création du monde, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire qu'il a vu la création de l'eau? Non. On parle de la création de plein de choses, mais on dit déjà dans les premiers versets, et le souffle de Dieu planait sur les eaux. Vous pouvez m'expliquer d'où étaient-ils ces eaux? Veruach Elohim erachefet al pnei amayim. Est-ce qu'il y a marqué Vaivra Elohim et amayim? Dieu a créé les eaux? Non. Grand secret, l'eau. À chaque fois que vous avez une pensée, avant de se concrétiser, elle passe cette pensée-là par une étape qui s'appelle eau. On ne peut pas rentrer dans tous les détails maintenant. Juste un petit exemple, un bébé. C'est d'abord dans l'idée du père, puis ça s'habille dans de l'eau, la goutte de semence, qui va, elle, se concrétiser dans le ventre de la mère et devenir bébé. Chaque chose passe par le degré haut. Je veux parler, je pense d'abord. Dès que je vais exprimer ma pensée, il y a des liquides qui sont obligés d'être accompagnateurs de mon langage. Et donc je vais exprimer par la parole grâce à l'humidité que j'ai à l'intérieur de ma bouche. Et beaucoup d'autres secrets que je ne veux pas maintenant développer. Sachez que tout passe par ces trois étapes. Lumière, donc pensée. Eau, élément conducteur, maï, et rakia, façonnage. Aleph, or, mem, resh, amar. Baruch, she, amar, vehaya, olam. Béni celui qui a dit, et maintenant vous comprenez le code, C'est pas seulement celui qui a dit, c'est celui qui a pensé, qui a amené l'élément liquide et qui a réalisé. En même temps. Vehaya olam. Baruch omer veose. Si tu es capable de faire ce secret-là, tu grandis. J'ai commencé le cours en disant que lui, Akadosh Baruch Hu, est invariable. Et que nous, nous sommes dans le changement. Mais plus nous devenons divins, moins nous changeons. Automatiquement, parce qu'on commence à lui ressembler. C'est-à-dire quand vous avez affaire à quelqu'un de régulier à côté de vous, quelqu'un de stable, pas quelqu'un qui est en dents de scie tous les jours, hein, lunatique. Pourquoi en lunatique? Parce que la lune est pleine, vide, pleine, vide, pleine, vide. Non, il n'est pas lunatique, il est solaire. Il est tout le temps entier, il est tout le temps là. Alors vous commencez à ressembler au divin. Pour se stabiliser, on y arrive, il faut des racines. Il faut des racines très puissantes. Et la Gemara va nous raconter une histoire. Et c'est un petit peu le clou de ce chiour. La Gemara, dans le traité de Brachot, à la page 41, nous raconte la chose suivante. Un jour, Rav Hisda et Rav Hamnouna étaient assis à table, faisaient un repas. On leur a apporté des fruits. Quels fruits? Des dattes et des grenades. Comme ça raconte la Gemara. Rav Hamnouna regarde les dattes et la grenade, et comme tout Talmid Chacham, sage, il est en train de faire le calcul sur quel des deux fruits il va faire la bracha en premier. Vous savez que c'est le test que doit traverser quelqu'un qui cherche un chidour pour se marier avec la fille du Rav. C'est-à-dire, le Rav invite le nouveau Khatan et il lui met plein de fruits, des gâteaux, et tu dis, vas-y, serre-toi. Et il va voir dans quel ordre il va faire les brachot à table. S'il sait l'ordre ou il ne sait pas l'ordre. Donc il faut étudier. Rav Hamnouna va prendre d'abord les dattes. Il fait la bracha, boré peri haetz, il mange. Et le Rav qui est à côté, Rav Hisda, lui dit, Kvod Rav, votre honneur, mon cher maître, tu ne penses pas comme Rav Yosef? Qu'est-ce qu'il disait Rav Yosef? Il disait que tout celui, tout élément, tout fruit qui était proche du mot terre dans la Torah était prioritaire à la bracha. Alors je vous ai écrit le verset, le voilà. Regardez combien d'éléments de fruits, ce sont les sept fruits que la terre d'Israël a été bénie par ces fruits-là. Chita, le blé, Seora, l'orge, Gefen, le raisin, Teena, la figue, Rimon, la grenade. Zeit Shemen, donc les olives et l'huile, Udvash, le miel de date. Sept éléments. Alors il y a un piège maintenant. Quel est le piège? Il y a deux fois le mot Eretz. Or, la Gemara nous dit le terme qui est proche du mot Eretz, c'est celui qui est prioritaire à la bénédiction. Alors, on lui a donné des grenades, qui fait partie du premier Eretz. Et on lui a donné des dattes, qui fait partie du deuxième Eretz. Donc, le sage maintenant doit savoir par quoi commencer. Qu'est-ce que fait Rav Hamnouna? Il se dit, la date, elle est deuxième par rapport au deuxième Eretz, alors que la grenade, elle est 1, 2, 3, 4, 5e par rapport au premier Eretz. Alors, est-ce que le premier Eretz est plus important que le deuxième Eretz? Ou alors, est-ce que c'est la distance par rapport au mot Eretz qui prime? Terrible. Regardez, avec un petit truc de rien du tout, les chachamim, ce qu'ils sont en train de faire à table. Et ça, ça a des résonances sur le cosmos tout entier. Lorsque Rav Hamnouna va répondre maintenant à son élève, à son disciple, il va lui dire, tu sais, dans ce fameux verset, dans le livre de Dvarim d'ailleurs, donc le mois de Shvat, le mot Rimon, la grenade, est cinquième au mot terre par rapport au mot Eretz. Alors que la date est deuxième par rapport au deuxième Eretz. Et donc moi, Rav Amnouna, je vais donner la priorité à celui qui est plus proche du mot Eretz, même si c'est le deuxième Eretz. On va expliquer. Hein. À ce moment-là, l'élève dit une expression à son maître extraordinaire. Mon maître, que Dieu nous donne des pieds, des jambes en fer pour te suivre là où tu iras. Et comme ça se termine la Gemara. C'est-à-dire que Dieu nous donne la force, la puissance de te suivre. Tu viens de me donner une révolution dans ma vie. C'est une révolution ce que je viens de vous dire. Pour lui, c'était une révolution. Ça ne vous fait rien du tout. Pas grand-chose. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Les sages nous expliquent quelque chose d'extraordinaire et il faut comprendre ici un grand secret. Ce grand secret nous a été donné par le Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dans un livre qu'il a expliqué, la Gemara. Ce livre s'appelle Ein Aya, l'œil de Avraham Yitzhak HaKohen, donc le nom du Rav. Nous explique là-bas le Rav Kook. Je vous lis. Ba'asher chibat eretz hakodesh yesoda shel Torah. Parce que l'amour de la terre d'Israël, c'est le fondement même de toute la Torah. Regardez ce qu'il va faire le Rav Kook. Il va prendre le terme qui est écrit dans la Torah, Eretz, il va le transformer en quoi ? En réalité. Exactement ce que nous avons dit tout à l'heure. Il ne va pas rester dans le texte, il va nous expliquer maintenant qu'en réalité, il y a une priorité à ceux qui sont proches de la terre. Regardez la transformation, il est sorti du livre et le livre s'est planté en fait dans les fruits, dans les arbres. Il a pris vie. Nous dit le Rav Kook, « Shehi, chibat eretz ha-kodesh mevia et klal am Hashem ou klal ha-olam kulo le-ashlamatam. » Celui qui est proche de la terre d'Israël va aider à compléter le peuple d'Israël et à bonifier le monde et l'univers tout entier. Autrement dit, le Rav nous dit ici, lorsqu'un juif habite la terre d'Israël, il est en train de transformer, de bonifier le monde. Alken mechubarim inyanei abrachot, va conclure le Rav, c'est pour ça que toutes les brachot, les bénédictions, qu'est-ce que c'est une bénédiction en hébreu ? Encore une fois, traduction, trahison. Bracha, ce n'est pas une bénédiction. Bracha veut dire un lien. En hébreu, le havrich, c'est lier les choses. D'ailleurs, vous devriez vous poser les questions. Est-ce qu'on peut bénir Dieu ou c'est Dieu qui nous bénit ? Alors comment je peux lui dire « Baruch ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel » et qui je suis pour le bénir ?
C'est faire pousser la vigne aussi de sa propre
vie. Exactement. Ça veut dire quoi ? Quand je dis « Baruch ata Hashem », je ne suis pas en train de lui dire « Béni sois-tu l'Éternel ». Je suis en train de lui dire, je suis relié à toi, tu es relié à moi, l'éternel, donc je suis lié à l'éternité. Comme dit madame, en hébreu, les havrich, c'est rentrer une vigne par terre, la planter, n'importe où, la branche, vous la mettez par terre et elle repousse. Ça c'est la force, ça c'est la havrich, en hébreu. Nous dit le Rav Alken Inyane Abrachot. Maintenant, je traduis avec un langage simple, sinon vous n'allez rien comprendre au cours. C'est pour ça que les bénédictions, quand on bénit pour un fruit, Behakdamatam Besmichatam Laaret Shektuva Batorah, toujours va gagner, va être en premier les fruits qui sont proches du mot terre. Moralité, lorsque tu vas te marier avec la fille du rabbin, il faut d'abord que tu connaisses le verset. Eretz Rita ou Seora. Vegefen ou Teena verimon eretz zeit shemen ou dvash. Une fois que tu as fait ce calcul, tu as deux eretz, donc tu as pas mal de combinaisons. Qui est proche du mot premier eretz, qui est proche du deuxième eretz, tu vas commencer à faire des calculs. Je vais pas rentrer maintenant, j'ai une combi pour ne pas oublier. Okay? On commence toujours par le premier du premier. Rita, donc on va faire mezonot sur un bout de gâteau qui est à table. Okay? Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais vous expliquer, je vais vous donner un petit secret. Okay? Un petit secret. Et le secret dit, vous voyez que tous ces fruits ont des graines. Alors vous prenez la graine et vous la regardez. Tant que la graine est encore unie, c'est qu'elle est proche de l'unité. Dès qu'elle commence à se couper, c'est qu'elle se disperse, donc elle s'éloigne. Qui a une seule graine? L'olive. Qui a deux graines? La date. Car c'est une graine qui est coupée déjà en deux. Il y a une fente. Et ainsi de suite, les raisins ont des petites graines. Et la figue a beaucoup de graines. Et la grenade a beaucoup de graines. Nous disent les sages, en réalité, c'est le secret de l'unité. Tu viens de l'unité, donc tu es complètement un. Et plus tu t'éloignes, plus tu te disperses. Se disperser, c'est une maladie mentale. Se réunir, c'est une guérison. La guérison, elle passe par la réunion, la réunification de l'être. Un jour, je donnais un cours à Jérusalem, et il y a un très grand rabbin qui rentrait en plein milieu du cours, et j'étais très gêné. Je ne savais pas comment terminer le cours, et il est là, donc tout le monde, ça fait un grand silence, un grand truc, et il faut que je termine mon cours, je suis en plein milieu. Et il me fait signe, continue. Je ne vais pas vous dire qui c'est, mais très 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 grand rabbin. Et je me tourne et je dis la chose suivante. Okay. Le fait de dire que nous sommes proches de la terre au niveau du cœur, mais ne pas pouvoir réaliser cette proximité au niveau de mes jambes, c'est de la schizophrénie religieuse. Et ce rave, qui n'habite pas ici, vous avez compris, me fait comme ça, me dit tu as raison. Et il intervient. Tu as raison. Notre cœur est ici et notre corps est là-bas. Très difficile. C'est la schizophrénie. Il y a des médecins ici. Okay? Il y a un problème. Il y a un problème de venir réunir l'être à lui-même.
Il a dû recevoir le message.
Je pense que, petit comme je suis, j'ai donné un message là-bas, je ne sais pas ce qu'il a fait comme graine, mais j'ai planté quelque chose.
Il est toujours là.
Il est revenu.
Non, vous ne savez pas de qui je parle.
Il est
revenu
là-bas.
Non, rassure.
Il va y revenir, moi.
En réalité, la proximité. Maintenant, nous avons ici un problème. Nous avons deux fois le mot terre. Le Rav Kook va continuer son explication, il ne va pas s'arrêter là. Il va nous dire, tu sais pourquoi il y a deux fois le mot « terre » dans le verset, car j'aurais pu faire un verset avec une fois le mot « terre ». Regardez. « Eretz rita seora gefen teena rimot zeit shemen udvash » Nekuda, c'est fini. Personne ne serait gêné ou vous n'aurez rien vu. Si je vous ai même écrit ce verset comme ça, vous n'aurez rien dit ce soir. À part ceux qui connaissent le verset. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux terres? Nous dit le Rav Kook, c'est deux fois la même terre. Elle ne change pas. Mais il y a certaines personnes qui, par rapport à cette terre, changent. Vous avez ici cinq sortes de personnages qui sont proches du premier terme terre. Et vous avez après deux sortes de personnages qui sont proches du deuxième terre. Nous dit le Rav Kook, ceux qui sont proches de la première terre sont ceux qui sont très liés à la Torah, donc il y a cinq livres de la Torah, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Autrement dit, ce sont les hommes, les femmes, qui veulent vivre la terre d'Israël parce qu'elle a des qualités intrinsèques très supérieures et qui veulent réaliser le divin sur terre. Ils comprennent la mesure du peuple d'Israël sur sa terre et toutes les grandeurs de ce que représente la terre d'Israël. Immense. Nous dit le Rav Kook, il y a une deuxième sorte de personnes qui aiment la terre d'Israël. Regardez ici. Quelle est la différence entre ça et ça? Ici, il y a marqué l'élément naturel primaire. Alors que dans le deuxième terre, il y a marqué ce que je sors de cet élément. C'est-à-dire là, l'huile et là, le miel. Il n'y a pas marqué le fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Rav Kook, il y a une deuxième catégorie de personnes qui aiment la terre pour ce qu'elle leur donne. C'est-à-dire, ils sont un petit peu égoïstes. Ils aiment la terre d'Israël parce qu'ils peuvent faire des affaires ici. Parce qu'il y a quelque chose qui leur donne. Ils ont compris au niveau de leur intérêt personnel la proximité de la terre. Quel est le chidouche maintenant de Rav Amnouna? À qui il a donné priorité? À la date. C'est-à-dire que Rav Amnouna vient de donner une gifle à son autre Rav. Il vient de lui dire, tu sais qui je vais bénir en premier? Celui-là. Pourquoi? Même s'il est au deuxième niveau que vous avez tous dit, bon, alors il ne vaut pas grand-chose celui-là. Dit Rav Amnouna, non. Même celui qui vient habiter la terre d'Israël pour des intérêts personnels, et pas pour les grandes vertus de la terre d'Israël, ésotériques. Je lui donne la priorité parce qu'il est deuxième, même si c'est par rapport à la deuxième catégorie, alors que la grenade, elle est cinquième par rapport à la première catégorie. Nous dit le Rav Kook une leçon extraordinaire. Tu dois venir en terre d'Israël, peu importe pourquoi. Même si tes intérêts sont des intérêts très égoïstes, je n'ai pas peur. Ce sont des intérêts terre à terre, matériels. Pourquoi, dit le Rav Kook? Celui qui va venir construire quelque chose sur cette terre. Ici, sur la terre d'Israël, il y a une qualité que tout va se transformer d'une manière ou d'une autre pour faire quelque chose de très puissant. Même si c'est au départ, ça a commencé par des intérêts et pas par l'essence même des choses. Autrement dit, Rav Amnouna nous dit, je fais confiance à la qualité que la terre va donner à ses habitants. C'est-à-dire que la terre d'Israël nous transforme. V'tachlita eliona botavo, dit le Rav Kook. Et le reste va suivre, ne t'inquiète pas. Le fait de marcher ici, ça va te transformer. Regardez ce que nous avons été capables de faire en 60 ans. C'est rien 60 ans. Je vous rappelle qu'il y a 60 ans, on avait des tentes dans la plage à Tel Aviv. Et les gens qui creusaient la terre et qui se disaient « Mais qu'est-ce qu'on fout ici ?» Des marécages, des... toutes les maladies. Rien du tout, rien. Des gens en short, avec un kova tembel en train de creuser des trous et des machins, et ils te mettent déjà une rue, il n'y a rien, c'est des pierres. Rue Alembi. Il n'y a rien. Il y a trois chameaux et des pierres. Regardez ce qu'il y a aujourd'hui. C'est inimaginable. Personne ne peut comprendre ce miracle. C'est la nature qui dépasse la nature et qui s'habille dans la nature. C'est un miracle. Nous dit le Rav Kook quelque chose d'extraordinaire. L'élève qui a compris ce secret de son maître maintenant, parce que son maître vient lui donner un grand chidouche. Parce que Rav Hisda lui pensait que si on ne vient pas avec le degré spirituel de la terre d'Israël, il vaut peut-être mieux rester dehors. Son maître lui dit non, ça n'a aucun rapport, tu n'as rien compris, il vaut mieux être même au deuxième degré, mais proche de la terre, plutôt qu'au premier degré et loin de la terre. Et donc l'élève va conclure que Dieu nous donne des jambes de fer pour te suivre. Pourquoi? Référence au verset, car la terre d'Israël, ses pierres sont avanea avanei barzel. C'est-à-dire, pour vivre ici, il faut véritablement avoir une force et une puissance, avoir des pieds en fer. Sinon, tu ne peux pas vivre ici. Que Dieu nous donne ses jambes, ses pieds pour pouvoir te suivre, parce qu'on a compris ton amour pour la terre. Et moi, je veux un Rav qui a cette proximité avec la terre. Ça, c'est le secret. Moraï Verabotai, je vais aborder la dernière phase du Shiur en citant ce que le Rav Kook, justement, nous dit dans Orot Atria. les lumières de la résurrection. Tous les livres du Rav Kook s'appellent Orot, les lumières. Je vous rappelle qu'il a écrit ces livres pendant qu'il faisait très nuit dans le monde. Guerre mondiale. Une panique totale. Le judaïsme n'est pas du tout dans sa stabilité que vous connaissez aujourd'hui, même si vous croyez que vous êtes dans l'instabilité. Et il écrit des livres qui s'appellent les Lumières. D'ailleurs, tous ces rabbins autour de lui lui disent « Tu es fou ! On est dans le noir, écris des livres qui s'appellent le noir !» Et lui, il écrit des livres qui s'appellent la Lumière. Pourquoi ? Encore une fois, kabbaliste. Celui qui est capable de voir la lumière, même pendant le processus, alors que le processus nous dit exactement l'inverse. Regarde ce qui est en train de se passer. De quoi tu me parles ? Tu es en train de me parler de Géoula ? De délivrance du peuple d'Israël, tu vois ce qui est en train de se passer ? Rav Kook écrit le livre Oroth. Et regardez ce qu'il dit là-bas. Si ce n'était pas marqué, c'est très difficile de concevoir qu'un Rav peut parler ainsi. Gdola hit vi'atenu agufanit. Il parle au peuple, il dit, Akadosh Baruch Hu, on est arrivé à un stade où on demande maintenant, j'exige une puissance corporelle. Gouf bari anutzrichim. Nous avons besoin maintenant d'un corps saint. C'est un rabbin. Il aurait dû parler de spiritualité. Aucun rapport. It asaknu harbe benafshiu, dit le rab. Nous avons trop étudié le spirituel. Shachachnu et gdushat aguf, à tel point qu'on a oublié la sainteté du corps. Pour nous, pratiquants, religieux, ça veut dire volatile. Pas du tout. La puissance de la Torah, encore une fois, c'est celle qui peut s'habiller dans des muscles. Zanachnu et abriyut, on a délaissé la santé. Vehagvura hagufanit et la puissance du corps, au détriment, soi-disant, de la spiritualité. Shachachnu sheyesh lanu basar kodesh. Écoutez ces paroles, c'est du feu. Je ne sais pas si vous captez en hébreu. On a oublié que nous avions une chair de sainteté. Lo pachot mima sheyesh lanu ruach hakodesh. Pas moins que nous avons un esprit saint. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a non seulement un esprit saint, mais même son corps est saint. Azavnu et achaim amaasim, et nous n'avons rien compris. Nous avons quitté la vie pratique. Vet haït itgabrut achushim, on a oublié nos sens, on les a délaissés. Vet akashur imam metziut agufanit amuchashit, et tout ce qui nous collait au palpable, au touchable. Mipnei yira nefula, et tout ça pourquoi? Parce que nous étions des peureux. Mais d'une peur qui n'est pas normale, une peur qui est en dehors du judaïsme. Ira nefula est la peur. Une peur qui tombe, qui n'existe même pas. Mipne choser emuna bekdushat haaretz. Et tout ça est arrivé parce que nous n'avons pas de emuna. Emuna ne veut pas dire foi, mais certitude. Parce que nous n'avions pas une certitude dans la sainteté de la terre. Emunaz et Seder Zraim. Et les sages, lorsqu'ils ont séparé, divisé les Gmarot, les Mishnayot, le Seder qui s'appelle Zraim, nous disent les Chachamim, c'est Emuna. Pourquoi ? Zraim veut dire les graines. Pourquoi c'est la Emuna ? Nous disent les Chachamim, Shema Amin Bechai Olamim Vezora. Il n'y a pas plus grand croyant que celui qui sème dans la terre. Il ne voit rien. Une petite grêle, c'est fini. Ça, c'est un homme qui sème, il doit avoir une grande émouna. Kol Tshuvatenu Ta'ale Beyadenu. Sachez que notre Teshuva, nous dit le Rav, sera acceptée par Dieu et par nous-mêmes. Avec tout son degré spirituel, gam tshuva gashmit, seulement si elle est accompagnée par une teshuva physique, matérielle. Yotzeret dam bari, je parle au niveau du sang que notre sang soit sain. Bassar bari, notre chair, notre viande soit saine. Goufim chatuvim ve'etanim, lorsqu'on sera musclé et beau. Ruach lohet zoreach al gabei shririm chazakim. Rav Kook, un beau soleil sur des muscles brillants. Où on a vu une chose pareille? Vous savez que l'une des références au messianisme d'Israël, je l'ai dit, je crois, dans un des shiurim ici, c'est la beauté des enfants. Regardez la beauté des enfants de notre génération. Des merdes, on dirait des anges. C'est pas qu'on était vilains il y a 60 ans, mais bon. Les enfants d'aujourd'hui, ce sont des anges. Mamash, Bliainara, c'est une beauté. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les sages font référence à cette beauté. Ils nous disent que quand tu verras des enfants beaux, ce sont les fruits. C'est la même chose que Tu Bishvat. Lorsque les fruits seront beaux, tu pourras savoir que tu es très proche de la délivrance. Les enfants sont nos fruits. Ils sont tout simplement beaux, magnifiques. Je ne parle même pas de la sagesse qu'ils ont et la connaissance à cet âge-là. Et lorsqu'on saura que sanctifier notre viande, j'appuie véritablement ce qu'il dit. Ta'ir aneshama, c'est comme ça que notre âme va éclairer. Incroyable, incroyable. Zecher letriat ametim agufani, et ça c'est la résurrection des morts. De qui il parle? Du corps. Parce que, qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? Qui est mort en réalité? Le corps. L'âme n'est jamais morte. Elle a seulement quitté le corps, elle vit dans un autre degré. Donc qui est mort? Le corps. Il dit lorsque le corps d'Israël, le corps national et nos corps seront de plus en plus vivants, beaux, musclés, sains, sachez que la Neshama va pouvoir rester à l'intérieur. Comment vous pouvez étudier la Torah si vous êtes chétif, maladif, faible, maigre?
Moche.
Je n'ai pas dit. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Dans chaque yeshiva, on devrait instaurer des cours de gymnastique. Ce n'est pas un vers à la Torah, c'est la complétude de la Torah. C'est comme ça qu'on complète la Torah. Je conclue le cours. Nous voyons ici une nouveauté extraordinaire. Et tout ça, c'est Tu Bishvat. Quand vous êtes assis à table à manger des fruits de Tu Bishvat, vous êtes en train de réaliser en réalité le signe le plus clair de la fin des temps. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Abba, Rabbi Abba nous enseigne, tu n'as pas de fin des temps aussi clair que le moment où la terre d'Israël va donner ses fruits avec un bon œil. Y'a qu'à aller à Machane Yehuda. Faites un petit tour au chouk d'Israël et vous allez voir l'abondance et la beauté et les odeurs et les couleurs. Et dit Rashi sur place, El Haketz Mekoule Yoter, tu n'as pas de fin des temps aussi clair que celle-ci, que les fruits d'Israël sont beaux. Et les fruits. Et les fruits, enfants. Et les fruits, études de la Torah. Car l'étude de la Torah de notre génération est complètement nouvelle. C'est comme un nouveau fruit par rapport à tout ce qui a été étudié jusqu'à maintenant. Et plus nous allons avancer, plus l'étude de la Torah va rentrer dans des degrés extraordinaires, des secrets qui étaient cachés jusqu'à maintenant, qui sont en train de sortir à la surface. Moralité, la sainteté de la nature, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est la nature, c'est le miracle habillé dans la nature. Il est là. Tout est miraculeux ici, mais c'est habillé dans la nature. Il faut que tu aies les yeux nécessaires pour voir les choses. J'ai dit au cours des femmes que, à mon avis, je n'ai jamais entendu cette explication, peut-être qu'elle est fausse. Mais le mot optimisme, c'est par rapport à ta qualité optique. Optimisme. Si tu sais voir les choses, tu es optimiste. Tout dépend de ta manière de voir. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des anges. Et nous avons une qualité d'être des hommes. Car les anges sont stables, statiques. Et nous sommes en plein mouvement. Et nous avançons. Et quand on avance, À chaque pas, on tombe. Car pour avancer, nous sommes toujours sur un pied. Et quand tu es sur un pied, tu es instable. Alors il faut savoir ce que tu veux. Ou tu as peur parce que tu es sur un pied, donc tu restes sur les deux pieds, mais tu n'avances pas. Ou alors tu es sur un pied, à chaque fois tu tombes, mais tu avances. Et c'est ça le secret de la terre d'Israël. Les choses ne sont pas toutes comprises par la sagesse. Les gens qui sont complètement cérébraux se perdent. Des fois, il faut dire à quelqu'un, tais-toi et marche. Exactement comme la traversée de la mer que nous avons lue hier. Les enfants d'Israël sont en face de la mer. La mer s'appelle la mer de la faim. La mer de la faim. Il n'y a plus rien. Yam Souf. Pas la mer rouge. Yam Souf. Ça veut dire, c'est notre faim, c'est fini. Les Égyptiens derrière, les scorpions et les serpents, et la mer en face. Et Moshe commence à prier, et tout le peuple d'Israël commence à prier. Et Dieu intervient et dit, Matitzakelai, pourquoi tu te mets à prier maintenant? T'as rien d'autre à faire? Tu es religieux? Tu es encore dans la spiritualité? Alors Moshe le regarde, et il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais marche, avance! Mais où j'avance? C'est la fin, il y a de l'eau! Avance, tais-toi. Ta logique est en train de te bloquer. Tu vois une mer, la mer est bloquée, tu ne peux pas traverser. Et quand tu rentres, elle s'ouvre. Je ne comprends pas. Ça, c'est le miracle d'Israël. Tout est bloqué, ça a toujours été bloqué en face de nous. Depuis que je suis né ici, je me rappelle. Je n'ai jamais vu autre chose que des Palestiniens qui me tirent dessus. Tout est bloqué, tout le temps. Et tout le temps, on avance. Tous les gouvernements de gauche, c'est ceux qui ont fait toutes les guerres. Et tous les gouvernements de droite, c'est ceux qui ont donné les territoires. Tout à l'envers. Comprends rien. Tais-toi et avance. Marche. Alors on m'a posé la question, tu vas construire là où tu habites? Je dis oui. Ma'amin vezorea, je construis. Je construis. Et j'avance et je construis. Et je construis. Et je construis. Mais pourquoi tu construis? Parce que je ne suis pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. J'ai une mitzvah de construire cette terre. La logique me dit des fois l'inverse, souvent l'inverse. Mais moi je continue. Ça c'est la force de Am Yisrael. Ça c'est Tu Bishvat. Tu Bishvat c'est la sortie d'Égypte. C'est le don de la Torah. C'est la Torah de la terre d'Israël. Sefer Dvarim qu'a écrit Moshe Rabbeinu. C'est le don de la Torah lui-même, c'est la traversée de la mer Rouge. Tout ça, ça a été dit à Shvat, dans le mois de Shvat. Demain soir, quand vous serez assis à table, à manger vos fruits, donnez la qualité aux fruits de la terre d'Israël et sachez les manger dans l'ordre. Et pensez à ce cours qu'à chaque fois que vous êtes proche de la terre, dans votre être, pas seulement de la phrase « terre », plus tu es proche dans ta vie de la terre d'Israël, plus tu es prioritaire dans la bénédiction. C'est ça que ça veut dire tout ce texte. Et il y a une règle. Kol ha-mukdam, mukdam la bracha. Tout celui qui est proche du mot terre, on le bénit lui-même. Autrement dit, quand tu viens sur la terre, tu rentres dans la bénédiction. Quand tu es proche de la terre, de la construction de cette terre, tu es proche de la bénédiction. Moralité, il ne faut pas qu'on soit gâté. Il faut qu'on arrête de râler. Il faut qu'on voie les choses avec optimisme, qu'on avance, qu'on goûte ces fruits de la terre, qu'on voit tous ces fruits et au niveau de nos enfants et au niveau de toutes nos connaissances, Be'ezrat Hashem, qui vont en grandissant et à tous ces secrets, toute cette construction. Rabbi Nachman de Breslev disait à ses élèves, allez construire la terre d'Israël. Et ses élèves qui avaient l'habitude d'étudier la Kabbalah pensaient que c'était des sphirotes. Et ils disent à leur maître, dans quelle sphira tu es en train de parler? Dans quelle sphère spirituelle? Et le maître de leur dire, je parle des toits en tuiles et des briques en béton. Et les élèves redescendent sur terre. C'est le cas de dire. Mais il y a des gens qui sont des retards à terre. Et il faut rattraper le retard. Okay? Et tous ces degrés, tous ces secrets vient nous dire que la Aliya, Aliya veut dire monter, elle passe d'Afka par une Yerida. C'est-à-dire que plus tu plantes, plus tu montes. Et c'est pas par hasard que la première mitzvah, la seule mitzvah quand on est venu en tant que peuple en Eretz Israël, c'était de planter des arbres. On nous a pas demandé d'ouvrir une yeshiva. C'est important. Mais d'abord, tu plantes un arbre. Parce que quand tu plantes un arbre, c'est toi-même qui t'implante. En moralité, vous êtes toutes plantées. Mais c'est la première fois que vous vous plantez dans le bon sens.
Comment on le fait pratiquement?
Pour hein? On peut le dire en deux mots? Rita 1, Seora 2, Zay 3, après 4, après 5, après 6, 7.
Deuxième question, quand on ne plante pas pendant l'année de Shemitah?
On n'a pas besoin de planter. On n'a pas besoin. Jamais la plantation le jour de Tu Bishvat n'a été une mitzvah. C'est quelque chose qui a commencé en 1920. Mais ça n'a aucun rapport avec Tu Bishvat. Tu Bishvat, c'est au niveau de tout ce qui est intrinsèque au secret de la terre. Quel lien à la terre?
Okay.
Dans le seder de Tu Bishvat, il faut boire deux sortes de vin, du vin blanc et du vin rouge. Okay. Et il faut commencer en fait par la qualité des chassadim. Le vin blanc représente la bonté, le vin rouge c'est déjà quelqu'un qui est fort et qui peut même la rigueur la transformer en bonté. Donc il y a une évolution même dans Tu Bishvat. Des raisins blancs, des raisins rouges. Okay. 30 sortes de fruits, d'après les kabbalistes. 10 sortes de fruits dont la graine est à l'intérieur et le fruit à l'extérieur. 10 sortes de fruits dans lesquels il n'y a ni graine, ni peau, tout se mange. Et 10 sortes de fruits où la peau est à l'extérieur et le fruit à l'intérieur. Et bien entendu, ces 3 sortes de fruits correspondent à 3 mondes. Là où l'écorce est dehors, c'est le monde dans lequel nous sommes. On ne voit rien. Donc l'écorce est dehors. Là où l'écorce est dedans, c'est-à-dire la graine, c'est le monde un tout petit peu au-dessus de nous, où on peut manger le fruit, mais il reste encore une graine dure. Là où on peut manger et l'écorce et le fruit, c'est le monde spirituel de Olam HaBriah. Si vous mangez les 3 sortes de fruits, vous êtes garanti de monter à un niveau supérieur qui s'appelle Bina, le monde du discernement, qui d'après les kabbalistes nous permet de monter au chiffre 50, celui qui nous fait dépasser la nature, qui elle est basée sur 7 x 7, 49. Donc le chiffre 50, c'est celui qui va nous faire hisser dans le degré qu'on appelle le monde qui vient. Et bien d'autres choses, Be'ezrat Hashem, Chag Sameach.